France Inter.
Poisson, il arrive. Bouge pas, mon lapin. Poisson qui vient.
À mon avis, c'est pas un gros, ça.
CO2, mon amour.
Un Roger Grondin, peut-être. Ou alors une dorade. Pac, je l'ai ferré, là. Oh la vache! Ah, je... La carne, là, je bataille. Je bataille. Oh, putain. Ah, la vache.
Avec Denis Chessou.
Regarde, regarde-moi ça.
Mais non, il est minuscule, celui-là. Il est adulte, tu crois? Regarde-moi ça, là. Mais ça, c'est un nain, ça. Tu penses, j'ai rarement vu plus petit, hein. S'il faut aller au large pour attraper des merdes pareilles.
Sur France Inter.
Eh ben non, petit poisson ne deviendra pas toujours grand. Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous accueillir dans CO2 Mon Amour, la nature qui chuchote à vos oreilles, avec Jérôme Ragano à la technique. Notre collaboratrice, c'est Camille Blanès et Andrea Lechêne réalise l'émission. Commence par une petite humeur. Achetez mon gaz, mon pétrole, faisons valser les degrés du mondial thermomètre. Donnons un coup de pied dans les roupettes du climat, qu'il aille se faire mettre. Ah, vous n'avez ni pétrole ni gaz en France, en Europe. Et vos entreprises se délocalisent, alors bon, soyez raisonnables. Le peak oil ? Ah bon, on n'en parle plus, il est sous le tapis. Et oui, les enfants, admirez Musk et Trump, ils vous préparent un monde admirablement invivable. Et sortons de l'OMS et de l'accord de Paris. Mais c'en est assez de ces fables. D'ailleurs, le ministre de la Santé américain est contre les vaccins et pour l'élevage industriel. Rendez-vous à la prochaine pandémie. Alors oui, les lions sont lâchés. Mais non, ne plus utiliser cette formule, c'est quand même assez désobligeant pour les lions. Ils ne méritent pas ça, ni les hyènes, ni les loups, ni les vautours les plus fauves. Eux n'ont jamais saccagé la planète. Eh oui, pas si bête. Allez, fort baby, fort. Trump fera ce qu'il dit. La transhumance d'une pensée unique, après nous le déluge et les méga-feux, a très bien réussi. Bienvenue dans un monde meilleur. Alors des foules sentimentales, affairées, empressées, sans boussole, cueillent les fleurs du mal. Allez, roulez sur les autoroutes du commerce et des loisirs. Deux rubans d'asphalte jusqu'à deux fois six fois, si on parle l'Amérique great again. SUV, pied au plancher, noria de travailleurs, de livreurs, un homme, un moteur, et bulldozer sur la voie de droite. À gauche, camions blindés, auto-chenilles, batteries d'artillerie lourdes et légères. Oui, reste dans le rang, sinon on te fera la misère. Sur la bande centrale, entre deux glissières de sécurité, trois herbes folles et fleurs de déchets. Les petits lapins européens courent partout, affolés par le bruit et la lueur des phares. Le petit peuple des réfugiés se sait vivant parce que faisant partie du vivant. Poète, lanceur d'alerte, lanceur de rêves, scientifique, embrasseur de terre, écologue, climatologue, artiste, auditoriste d'Inter, des gens qui refusent de subir sans comprendre, qui n'ont pas de vérité révélée, hein, comme l'auteur de ces éditos qui gambattent sur les ondes, mais qui cherchent, refusant de baisser les bras, même en voyant fondre le monde. Sur un piquet à l'affût, les bus d'hiver, le bec au chaud dans les plumes, guettent l'imprudent campagnol. Destin de hérisson aussi, destin de hérisson amoureux d'une dame de pique habitant juste en face de la route qui va risquer sa vie pour la rejoindre. Ciel zébré en tous les sens, odeur d'essence et guerre chimique, dernier recours à cette folie, la bande d'arrêt d'urgence. Alors oui, la France n'est pas le pays où l'écologie est à sa juste place dans les politiques publiques et dans les pensées. Colosse aux pieds d'argile endetté, on le sait. La dernière avanie d'ailleurs étant de dézinguer l'agence bio, belle vision d'avenir. Mais face aux États-Unis, Made in Trump et plein d'autres pays où les lanceurs d'alerte sont tués, quand je me regarde, je me désole, quand je me compare, je me console. Allez, je vais retourner en montagne, là-bas, la terre, paraît-il, n'y est pas plate. Et là, déjà, les personnages chantent sous la neige et sous la terre. Et puis, écoutons les premiers coups de lime du chant de la charbonnière. Allez, on va partir, nous, en Bretagne, dans les Côtes d'Armor. On va rejoindre Eric Orsena, des Embruns nous attendent. Change my name to promise you, yeah. Dying inside, cause I want you, yeah. Didn't I say I wanted to, yeah. Honey, I changed for you, yeah. 28 years, I come into him. The rain chased me down the gully again. Now I'm higher than anyone. C'était Fontaine d'ici, Bug sur France Inter. Allez, direction le Trégor. Plumeur Boudou n'est pas loin, nous allons vers Trébordin.
Je dois tout à cette Bretagne. À cette Bretagne latino, à cette Bretagne celtique, je dois tout.
Là, on a quand même un chant que vous aimez. Celui du vent, celui des drisses et un peu de clapot. Ça, c'est une partie de votre histoire.
C'est mon histoire, parce que c'est grâce à ça que je me suis sorti de cette ville où il y avait des choses intéressantes, mais c'est pas ça qui me parlait. Vous savez, c'est à la fois le champ avec un P, c'est-à-dire là où on est nourri, on se nourrit, et le champ avec un T, c'est là où il y a de la musique qui sort.
De la Bretagne, de la mer, de l'eau, donc les bons ingrédients pour rencontrer Éric Orsenna. Nous étions à Trébordin pour le joli festival des images sous-marines, même si on ne fait pas de plongée sous-marine. Au loin, vous aviez donc des îlots, l'île Milio, entre autres. Et dans le ciel, le vent qui fait danser les mouettes et les goélands. Alors, vous êtes à l'entrée de la baie de Lannion. Vous avez cette grève à Trébordin, poinçonnée par la mer. Le granit rose n'est jamais loin. Derrière, dans les terres, il reste du bocage qui donne une apparence boisée. Bretagne Nord, on est dans le monde celtique qui ressemble, nous dit Orsenna, au monde latino-américain parce que sa famille était cubaine au 19e siècle. Alors pourquoi ? Nous dit-il, parce que le rationnel n'épuise pas le réel ni l'irrationnel. Jacques Azélias, le cheval d'orgueil. Alors même univers que 100 ans de solitude, parce que les légendes nous nourrissent. Et en Bretagne, vous avez du païen et Dieu qui est à chaque coin de pierre. On façonne des calvaires, vous avez des croix au carrefour des routes. Et c'est très puissant. Paganisme, druides, religion ont forgé la culture celtique. Il y a plus de celtitude que de certitude chez Orsenna. Et puis, vous avez l'Ankou. L'Ankou, c'est l'émissaire de la mort.
C'est les légendes absolues, et moi je l'entends grincer, et puis nous on entendait quand il y avait une tempête et quand un volet grinçait, c'est pas parce qu'il y avait du vent et qu'on n'avait pas mis d'huile dans les gonds, c'est qu'il y avait un équipage d'un chalutier à qui on avait oublié de rendre hommage et qui nous engueulait. Et quelque chose m'est venu récemment, mais qui est d'une conviction très forte. Les gens disent qu'ils ont peur de la mort. Pas du tout. C'est de la vie qu'ils ont eu peur. Et moi, franchement, si ça s'arrête, ça s'arrête. Mais j'aurais pas pu vivre plus grâce au trésor absolu, la machine à rebond et à s'agrandir, et qui s'appelle l'amitié.
Alors Éric, là, on parle devant cette entrée de l'océan. L'eau est aussi le fil conducteur, on va dire, de votre vie, que ce soit de l'eau salée ou bien de l'eau douce, mais c'est exactement ça. Aujourd'hui, vous êtes très imprégné, quand même, sur l'écologie, vous êtes quelqu'un qui est quand même parfaitement au point. Dans ce monde quand même joyeusement fracassé, où l'être humain est à la fois un animal génial, mais il ne sait pas s'arrêter, qu'est-ce que l'on peut se dire pour à la fois se faire du bien et en même temps aussi se mettre en garde ?
Alors, j'ai essayé de résumer un peu ça. D'abord, il faut comprendre. Pour comprendre, il faut expliquer. Pour expliquer, il faut s'émerveiller. Pour s'émerveiller, il faut raconter. Et puis après seulement, on alerte. Mais si on alerte avant de rappeler à quel point cette planète est une merveille absolue, fruit d'une invraisemblable succession du hasard, mais vraiment, qu'est-ce qu'il faut faire avec ces crétins mortifères qui veulent, après avoir salopé notre trésor, s'installer sur un caillou de merde qui s'appelle Mars.
C'est ça.
J'ai nommé, évidemment, Elon Musk. Mais il y en a plein d'autres comme ça qui n'ont pas compris ça. Mais il faut émerveiller. C'est-à-dire, je bouscule les scientifiques en disant, c'est pas parce que vous savez que ça suffit. Et que, au contraire, puisque maintenant, il y a de plus en plus des vérités alternatives, des choses comme ça, etc. Pas du tout. Il faut, encore une fois, émerveiller. C'est pour ça que l'art doit relayer la science. Absolument, et c'est pour ça que je me mets à ce service, enfin, de petit raconteur, de « il était une fois ». Avec cette morale toute simple, essayer de se conduire sur terre comme si on était sur mer. C'est très simple. Un, humilité. Celui qui pense qu'il est plus fort que la mer et que la tempête, au revoir. Deuxièmement, il faut l'obstination. Et puis la vaillance, c'est pas parce qu'il y a du baston qu'on va pas sortir du port.
C'est ça.
Et trois, surtout, esprit d'équipage.
Donc le collectif.
Donc le collectif, esprit d'équipage. Mais en même temps, être concret.
que les choses soient bien claires.
Oui. Hein,
je suis votre capitaine.
Oui.
J'ai en charge le bateau et l'équipage. Je préside à toutes les décisions importantes quant à la bonne marche de ce navire.
Oui.
Hein, et vous, vous prenez en charge la logistique de votre bonhomme, le côté touristique de l'affaire, etc. Tout ça. Et toutes les dépenses afférentes.
Mais toutes les dépenses.
Toutes, si c'est tout à notre charge, ça.
Et vous dites, mon capitaine.
Et on dit mon capitaine.
Et on le dira, mon capitaine.
On le dit maintenant, même, tu
on
vois.
On le dit, mon capitaine.
Mon capitaine.
Oui, enfin, ça va.
J'ai fait, il y a 15 ans, un livre qui s'appelait « L'avenir de l'eau ». Et je me suis rendu compte que, bon, très bien, vous savez, c'est intéressant, etc., mais c'est exotique, parce que ça ne nous concerne pas. Nous, virgule, pays tempéré. Et je me suis rendu compte de deux choses. D'abord, qu'il fallait incarner. C'est pour ça que j'ai fait un autre livre qui racontait l'histoire de 33 fleuves. Et là, j'ai croisé...
Ce sont des personnages.
C'est quasiment. Des êtres vivants. Voilà. C'est pour ça qu'on essaye de leur donner des personnalités juridiques. Question que je connais assez bien, puisque j'étais quand même 22 ans conseiller d'État. Donc
on a commencé par la Loire, ici, chez nous, mais ça avait commencé en Nouvelle-Calédonie.
Et à Nouvelle-Calédonie et en Nouvelle-Zélande.
Au début, quand on vous avait parlé de l'eau, si, votre bouquin était déjà assez visionnaire. Simplement, à cette époque-là, l'eau, c'était quelque chose d'invisible dès qu'on ouvrait un robinet, parce que ça coulait, qu'il n'y avait pas de problème, ça arrivait de façon potable. Et il faut malheureusement, comme très souvent, des coups dans la gueule, c'est-à-dire on a eu l'été 2022, puis on sait très bien que maintenant, il va falloir gérer à la fois le trop et le pas assez. Et vous le dites très bien, vous dites de toute façon que l'eau devient l'obsession de nos sociétés.
Mais l'eau, c'est de toute façon, rien ne se passe sans eau. On dit transition énergétique, mais on ne peut pas faire une centrale nucléaire s'il n'y a pas de l'eau pour refroidir. Soi-même, on est soit 50-60% d'eau. Pourquoi l'eau est si importante en biologie? J'ai demandé. Pourquoi, en résumé? C'est que l'eau, c'est le lien. L'eau, c'est le lien. Ah, oui. C'est-à-dire que dans la cellule, s'il n'y a pas l'eau, les nutriments sont d'un côté et les usines à fabriquer sont de l'autre côté. Et rien ne passe. L'eau, c'est, on pourrait dire, la logistique. On pourrait dire.
Joli.
Ben oui, ça m'est venu en parlant avec mon ami, avec mon ami Denis. L'eau, c'est le miroir de nos sociétés. Dites-moi comment vous traitez l'eau, à quel prix, au bénéfice de qui, etc. Si vous prenez soin du long terme, etc., je vous dirai exactement à quelle société vous appartenez. En plus, il y a un autre élément, c'est que quand j'ai écrit cette affaire, on m'a dit, quand c'est exotique, bon, très bien, mais parce qu'on est tempéré, mais on voit bien que ça nous touche aussi à 2-3 degrés. Et ce qu'il faut qu'ils comprennent, c'est que la sécheresse et l'inondation, c'est les deux versants de la même réalité. Une moyenne, ça n'a aucun sens.
Tu parles pas aux gens.
Ça. Non, mais on dit très clairement, on est la tête dans le four et le pied dans le congélo.
Voilà.
Le corps est à 37 et on est mort.
Ouais. Ouais.
C'est ça la moyenne.
Ouais.
Alors, simplement, on aura plus de pluie en automne-hiver, ce qu'on voit, et beaucoup moins en été. C'est-à-dire qu'on aura les deux.
C'est-à-dire qu'on aura la même quantité, mais la répartition n'est pas la même.
Complètement différente. Donc on dira, c'est pour ça que je me passionne pour les saisons. Et c'est pour ça que j'ai prié Vivaldi, avec qui j'ai des liens très, très...
Je comprends, il me l'a dit, Antonio m'a appelé.
D'écrire la cinquième saison, la saison de la réconciliation.
Alors aujourd'hui, nous sommes sur les bords de la Lèze, au lycée Charles de Gaulle à Muret. Nous travaillons dans l'atelier scientifique depuis pratiquement 10 ans, avec l'agence de l'eau à Tour-Garonne, qui a un projet, J'adopte un cours d'eau, qui se fait au Québec depuis plus de 20 ans. Et en fait, l'intérêt de l'atelier aujourd'hui, c'est faire de la surveillance des cours d'eau, pour après pouvoir lui donner une pastille, savoir comment va ce cours d'eau.
On se rend compte que l'agence de l'eau ne peut pas forcément travailler sur plusieurs endroits en même temps. Et donc notre aide, ça permet d'étudier deux cours d'eau différents en même temps et de pouvoir mettre nos expériences en commun.
Éric Orsenna, alors évidemment, donc, l'eau comme fil conducteur, vous dites il faut que les gamins puissent s'en emparer. Et là, vous avez eu une idée que vous avez soumise à l'éducation nationale, et ça a été une opération « Adopte une rivière ».
Alors, beaucoup d'associations avaient déjà lancé ça. Moi, j'ai mis le résumé un peu comme ça. Donc, on va lancer cette affaire. Et j'ai déjà eu 3 jours où j'ai vu des classes de CM2 adopter une rivière. C'est-à-dire, ils passaient la journée au bord de la rivière. C'était inouï.
Et donc là, on tire un fil, sans jeu de mots, un fil de l'eau, etc. Et on a tout le vivant qui
comprenne. Et c'était au Murau, c'était à Pontrieux, là, près de chez moi, là, sur le fleuve Trieux. Ouais. Et puis, c'était à l'île Saint-Denis. Donc, pas forcément. Et ils découvraient des choses. Ils disaient, ah bon, c'est ça une grenouille ? Ah bon, c'est ça ? Et c'est quoi ce machin-là, ce petit truc qui va à toute vitesse ? Ah ben ça, c'est un martin pêcheur. Ah bon ? Ah bon ? Et qu'est-ce que c'est que ces petites boules ici ? Ces petites boules qui sont marron, ben ça, c'est son caca. Mais les petites boules là, ben ça, c'est le plastique. Ah, pourquoi ? Parce que le marin pêcheur, il prend les poissons. Mmh. Et dans le poisson, il y a du plastique. Et comme il ne peut pas avaler le plastique, il le rejette. Ah bon, c'est ça ? Mmh. Et pourquoi ? Et regarde là ce qu'il fait, il va dans la rive. Ah oui, il creuse. Pourquoi il creuse ? Pour protéger ses œufs. Ah bon ? Parce que le marin pêcheur est comme une taupe. Ah ouais ? Ah ben, marin pêcheur, ça va être mon ami. Parce que, autrement, quand il vole, moi, je ne volerai jamais. Mais tout le monde me dit que je suis une taupe. Donc voilà.
Parce que j'aime bien, notre martin pêcheur, mais il est aussi quasiment marin.
Voilà. Il est martin pêcheur, il est creuseur, il est martin marin.
Oui, il est martin marin. C'est aussi celui-là, je crois, qui a inspiré le nez des TGV japonais, parce qu'il a un CX.
Et voilà, il rentre bien comme ça, il rentre bien à la fois dans l'air et dans la vase.
Voilà, alors donc on appelle ça du biomimétisme. Alors voilà. Donc c'est ça, c'est que maintenant, faire avec le vivant, donc lui prendre la main, qu'il nous prenne la main, et alors, comment arriver à faire comprendre que nous sommes nous-mêmes une partie du vivant ?
Ah ben ça, c'est ce que fait Escola, ce que font ces gens-là, etc. On fait partie du même bateau, comment ? Vous savez, il y a eu ce point là, avec la pandémie là, de une santé quand même.
One health, une seule santé.
Si l'environnement va mal, le monde animal, on est évidemment dans ce monde-là. Ouais. On est évidemment aussi, on part. Vous savez, il y a eu une très belle formule qui avait été lancée par un ami, Michel Lefebvre, qui avait été d'abord marin au long cours, et puis il avait fait des études, il a lancé les premiers satellites pour observer la mer, le niveau de la mer, et il disait, voilà, la Terre est un vaisseau spatial. Donc, comme il y a des astronautes, il faut que nous soyons des géonautes. C'est-à-dire les marins de ce vaisseau spatial qui est la Terre. Alors, on en est loin.
Évidemment qu'on ne s'en rend pas compte tous les jours, mais déjà, quel miracle d'être là, ensemble, avec nos amis qui sont en train de nous écouter, parce qu'on est à la bonne distance du Soleil, on est à 150 millions, ni trop loin, ni pas assez loin, alors que d'autres planètes, on le sait, sont gelées ou sont pleines de chaleur comme Mercure. Et puis après, il y a eu ce coup de bol de création de la vie, où ce n'était pas forcément gagné pendant 3 milliards 600 millions d'années. Et puis après, le fait que l'on soit là, il y a eu ovule et spermatozoïde de la part de vos parents, de la part des miens, et on est là.
Cet ensemble incroyable de chance, et avec quelque chose qui est très clair, que m'ont appris des tas de gens, mes professeurs, parce que je découvrais, moi, je commence à connaître 2-3 trucs, parce que ça fait que 25 ans que je suis là-dedans. Mais quelqu'un comme Gilles Boeuf, qui me disent cette évidence, c'est-à-dire que, contrairement à ce qu'on pense, à la compétition, à la concurrence, etc., qui donne, oui, ça c'est l'univers de la maîtrise.
Deviens un killer, mon fils.
Mais oui, deviens un killer, un cos-killer et un killer tout court. L'idée, c'est que si la vie a duré aussi longtemps, si c'est une start-up de quasiment 4 milliards d'années, c'est que d'abord, il y a de la solidarité. On est beaucoup plus là que tuer les autres. Si on tue les autres, on est tout seul. Et donc tout ça, là, la petite force, c'est ce que j'essayais d'expliquer en étant le plus simple possible, mais en étant, en envolant, en donnant pourquoi la raison, et avec les autres points de vue. Qu'est-ce que pense un fou de bassin ?
Alors c'est pour ça aussi d'ailleurs que vous avez soutenu donc la LPO. On n'est pas loin de l'île Grande là. Donc ils ont eu 110 ans.
Très bien son nom. Ah oui. C'est l'île Grande. L'île Grande est un côté Arche de Noé.
Et c'est des soigneurs.
C'est des soigneurs. Ils prennent soin quand même. C'est ça. Mais qu'est-ce qu'il y a de plus beau qu'un footbassin ?
D'ailleurs, on retrouvera donc les gens, on les découvrira, les gens de l'île Grande et de la LPO d'ici quelques semaines. Restez avec nous, vraiment. On va poursuivre donc le voyage en Bretagne avec Éric Orsenna, notre académicien.
Oui.
Grand-mère lavait nos chemises au lavoir près de la remise. Le chat faisait le gros dos sur l'âtre auprès du feu. Quelle est belle ma Bretagne quand elle pleut. Papa nous contait des légendes, de trésors enfouis sous la lande. Maman caché quelques pièces sous des draps très vieux. Qu'elle est belle, ma Bretagne, quand elle pleut. Et la petite fille de l'école, je crois qu'elle avait la rougeur. J'ai jamais osé lui dire que j'étais amoureux. Qu'elle est belle, ma Bretagne, quand elle pleut. Et je rêvais de la Garonne, des bûcherons, des bûcheronnes. Le petit bois de chez nous a fini dans le feu. Qu'elle est belle, ma Bretagne, quand elle pleut. Tous les marins qui se souviennent des barques qui jamais ne reviennent ont une envie de la mer quand même au fond des yeux. Qu'elle est belle, ma Bretagne, quand elle pleut. Quand je revois tous ces visages, je ne sais même plus mon âge. En regardant des photos, c'est fou ce qu'on est vieux. Qu'elle est belle, ma Bretagne, quand elle pleut. Qu'elle est belle, ma Bretagne, quand elle pleut.
Jolie idée de Thierry Dupin, donc, d'avoir ressorti ce Jean-Michel Karadec.
Maman, je crois que Mimi a fait une bêtise.
CO2, mon amour.
Qu'est-ce que tu manges?
Ça, bon poisson. Beaucoup bon goût.
Et où est-ce que t'étais chercher ça?
Réserve maison.
Avec Denis Chessou.
Maman, il a pété les poissons, papa.
Mon Dieu! Les poissons de Richard.
Hé, hey, Sophie, le bobel. Il a pété les poissons de l'aquarium à papa.
Sur France Inter.
Bah tant mieux, ils étaient nains, ces poissons.
Comment ça, ils étaient nains, ces poissons? On ne sait pas s'ils étaient nains, ces poissons. En tout cas, il y a un bouquin qui n'est pas naze et que j'ai entre les mains, que j'ai vraiment envie de vous présenter. C'est « Il était une fois la Terre, la petite histoire et les mystères de notre planète ». C'est signé Orsena et aussi Pierrick Graviou, avec un nom pareil, bon, poète que géologue. Et ben, c'est le cas, donc Pierrick Graviou, avec des illustrations quand même, excusez du peu, de Serge Bloch. Et en 50 chapitres courts, ben, ils offrent en fait une histoire de la Terre, de ses roches, de ses premiers occupants, de leur évolution. Et enfin, donc, de l'humanité. Allez, on retrouve Eric Orsena, mais beaucoup plus jeune. Un petit parisien, tiens.
J'habitais le 15e arrondissement de Paris. À part l'Institut Pasteur, il n'y avait qu'une seule chose qui était intéressante, c'était le métro dit aérien. Donc j'ai tout de suite vu qu'il fallait aller plus loin que les souterrains. Et deux mois par an, on passait nos étés à l'île de Bréhat. L'île de Bréhat, c'est un endroit sublime. C'est un endroit où il y a des courants terribles, puisque entre marée haute et marée basse, ça peut aller jusqu'à 11 mètres. Donc on apprend à naviguer.
Sacré marnage.
Et ça, la nature m'est entrée par la mer. Vraiment, vraiment, vraiment. La porte ouverte pour moi sur la nature, sur l'amour de notre planète, c'est venu par la mer. Et en fait, j'ai navigué depuis l'âge de 8 ans, c'est-à-dire mon père m'a laissé un mini bateau à voile à l'âge de 8 ans, et je me suis rendu compte que c'est exactement en même temps que j'ai commencé à écrire. Et je me suis rendu compte que c'était exactement la même chose, c'est-à-dire que écrire et naviguer, c'est pareil, pour une raison très simple, sur l'eau comme sur la page blanche, il n'y a pas de route. Ah. Il faut les inventer.
Je reviens juste quand même sur l'opération Adopte une rivière. Ce qui est génial, c'est que vous l'avez proposé à l'Éducation nationale. Bon, ok, d'accord. Mais peut-être que le titre, c'était pas leur truc.
Alors non, parce qu'ils avaient déjà quelque chose qui avançait. Puis je sais pas moi qui ai inventé. Hein. Plein d'associations font ça, magnifique. Aux rivières de Bretagne, plein d'autres et tout ça. Donc moi, j'apporte un peu en plus. Alors ils m'ont dit, ça va être bien. Alors ils ont un peu baptisé ça aire éducative fluviale.
Ah, c'est génial, pour, alors, pour... Oui, c'est un repoussoir total, c'est aire éducative fluviale.
Alors, mais on va, ça fait envie, on va arriver ça. Avec eux, comme ça, il faut gérer avec, je connais, hein, j'ai été dans le droit administratif pendant 20 ans, donc je sais comment faire ça, mais on va relancer l'affaire en petit, et puis on va faire de la musique, on va faire des poèmes, on va faire l'idée de... que moi je commence l'histoire d'une rivière et qu'on fasse un championnat pour qu'ils finissent l'histoire de la rivière. Ouais.
De toute façon, notre boulot maintenant, c'est quand même de mettre le paquet absolument sur cette jeune génération, parce que c'est quand même par là que ça va se passer. Ça se passe aussi au niveau des collectivités, ça se passe au niveau associatif, ça se passe au niveau des lanceurs d'alerte qu'on a transformé en éco-terroristes. Et c'est par là qu'il faut aller, non?
Quand même.
Et puis de la connaissance, bien sûr.
Bien sûr. Et puis il y a tout ça qu'on est ensemble sur ce bateau-là. Et encore une fois, parce que c'est un trésor. Parce que c'est un trésor, avec toutes ces contradictions, parce que c'est vrai qu'il va falloir nourrir des milliards d'êtres humains. Ouais. Donc comment est-ce qu'on va faire? Donc la science va permettre d'agir. Moi, je ne suis pas du tout anti-scientifique,
non, pas du tout.
Je ne suis pas du tout non plus décroissance, non, mais évidemment une autre croissance. Donc en même temps, c'est très très passionnant en ce moment, et je suis content d'être en même temps économiste, parce qu'il y a ces contraintes, et puis et en même temps une sorte de vulgarisateur, et tout ça avec l'amitié de tous ces gens. Quand je vois les gens que j'ai l'honneur de rencontrer à l'Institut Pasteur, qui me donnent les dernières nouvelles de la vie, on en est où de l'antibiorésistance? Comprenez? On en est où de ce qui se passe des gènes co-responsables seulement de l'autisme? On en est où des maladies qui viennent des vecteurs, c'est-à-dire des moustiques? Parce qu'on va se taper une épidémie de dingue, oui. Etc. Vous voyez, cette chance immense, merci la vie, merci l'amitié, d'avoir été un peu, pour prendre un terme nautique, à cette sorte de confluence de la vie.
Ça, c'est une chenille de papillon lune, tu vois. Elle va tisser sa nymphe et rentrer dans sa crie.
Chrysanthème?
Non, chrysalide. Mais qu'est-ce qu'on t'apprend à l'école, hein? Et autour de la chrysalide, il y a le cocon. Tiens, regarde, voilà. Ça, c'est un cocon. Et dans une dizaine de jours, ce sera un papillon.
Alors, l'économiste que vous êtes connaît très, très très bien cette affaire. Années 80, début de la mondialisation, début aussi, on va dire, de l'individualisation des gens. Voilà, la notion de collectif commence à partir gentiment. Comment on fait aujourd'hui? Parce qu'on voit bien que les entreprises sont une des meilleures façons de créer de la richesse. Mais en revanche, tous les excès maintenant auxquels on assiste ne sont pas compatibles avec l'écologie, autrement dit, de pouvoir garder l'habitabilité du vivant. Donc comment on peut dire à l'être humain, tu es à la fois quelqu'un de génial, et en même temps, il faut quand même arriver à te calmer?
C'est l'invention, on doit faire, c'est l'invention, ça veut dire quoi? Un bien commun, ça veut dire qu'il y a des limites, ça veut dire qu'il faut déterminer autrement la croissance, ça veut dire qu'il faut déterminer autrement la rémunération. C'est la rémunération qui doit être plus responsable de ce qui va après. Ça veut dire qu'il faut lutter contre l'accélération avec son allié la finance. C'est-à-dire que c'est quoi dans 5 ans votre plan? Ça veut dire quoi? C'est pas ce que vous allez gagner tout de suite et revendre tout de suite. Enfin, c'est une réinvention complète. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a encore une contradiction. C'est que d'un côté, il faut qu'on ralentisse. Et de l'autre côté, il faut qu'on accélère. Merci. Je m'inquiète de voir qu'il y a plus de jeunes qui choisissent les écoles de commerce que les écoles scientifiques.
Et des scientifiques qui ne sont pas forcément bien payés. Et
alors, quand vous voyez que quelqu'un qui a été un petit génie en mathématiques, c'est-à-dire en gros l'école normale supérieure, qui a été vraiment inventif, ces polytechniciens sont bons, mais ceux-là sont un peu au-dessus, sélectionnés magnifiquement. Et quand on voit qu'on leur propose à 35 ans au poste au CNRS, où ils vont gagner 3000 euros et qu'il y a 250 qui se présentent pour deux places et que 6 ans dans la finance, c'est-à-dire dans la finance... Vous savez, sur l'argent et la finance, j'ai une règle extrêmement simple, très simple. L'argent, le meilleur des serviteurs, le pire des maîtres. Vous faites aucune croissance, aucune entreprise... qu'elle soit associative ou avec une entreprise qui doit gagner de l'argent, si vous n'avez pas un agent financier. Mais si c'est de l'argent pour faire de l'argent, au revoir.
Je suis Balthazar Picsou. Je me suis fait un nom en étant plus dur que les durs à cuire et plus malin que les petits malins. J'ai bâti ma fortune tout seul, comme un grand. Je n'ai ni ma famille ni mes neveux qui ont levé le petit doigt pour moi et je ne lèverai pas le petit doigt pour eux.
comment on fait? Parce que nous sommes à la fois des animaux de plaisir, ce qui fait qu'on veut bien faire une action, mais on a envie d'avoir quand même quelque chose qui nous revienne en retour sans trop attendre. Et puis, ben justement, ce temps beaucoup plus long, là, on est face, on est assis sur 2 milliards de cailloux, ben après devenus granit, donc, qui sont là. Donc, entre l'échelle de la nature, mais aussi, là, les événements qui s'accélèrent. C'est-à-dire que là, les suites de chaos, on les a. Bon. Comment on arrive à concilier tout ça?
J'ai un petit problème, c'est que, vous savez, comment on définit un optimiste? C'est quelqu'un de mal informé.
Ouais.
Alors, comme je suis bien informé, j'ai du mal à être optimiste. Alors que c'est à la fois ma nature et ma morale. Donc, il faut agir de toutes les manières possibles, avec les scientifiques, avec les artistes, avec ceux qui montrent qu'une entreprise responsable est plus rentable, au fond, qu'une autre entreprise, et va durer plus longtemps. Donc c'est ça, ces questions-là, avec des tas d'interrogations. Mais, vous savez, en même temps, parce que le « en même temps » politique a montré que ça ne marchait pas du tout,
non.
Mais le « en même temps » scientifique montre que c'est absolument une nécessité. Et que, au fond, si on redonnait, on dit « merci Descartes, tu nous as permis de maîtriser, revenons un peu avant et salons Montaigne », eh bien, tu vis avec, tu ne vis pas contre. Et moi, il y a quelque chose qui m'a toujours frappé, ça c'est très intime. J'ai toujours détesté dominer. Mais dominer m'ennuie. S'il n'y a pas quelqu'un qui est au moins au-dessus, je ne m'excite plus.
De même qu'on parle de transition, on a plutôt intérêt à bifurquer.
Bah, évidemment, ouais. Transition, non, non. Ouais. Donc vous voyez, il y a la question des mots. On me dit, alors vous êtes quoi les bassines? Je veux dire, si vous dites bassine, vous êtes mort. Si vous dites réserve d'eau, pourquoi pas? Mais ça dépend, dites-moi où, oui. Et comment, oui. Pourquoi pas les garder ici, si on ne réserve pas un peu d'eau, comme il y a un soc granitique, ça va direct à la mer.
C'est
donc, c'est pas évident, mais dans d'autres endroits. Vous savez, c'est très frappant de voir qu'à deux départements voisins, vous avez les Deux-Sèvres, vous avez Sainte-Soline, tout le monde s'étripe parce que c'était la pire des manières de faire une accumulation d'eau. Et de l'autre côté, vous avez la Vendée.
Oui, et là, ça marchait.
Eh bien, ça marche. Pourquoi? Parce que les gens se parlent. Oui. Regardez la différence entre les deux vallées, la vallée de la Roya et la vallée de la Vésubie. Il y en a une où on parle, l'autre, on ne se parle pas. Oui. C'est ensemble. On va être obligé d'être ensemble.
Et pourtant, ce sont les mêmes éléments.
Et c'est les mêmes éléments. Et qu'on soit obligé d'être ensemble, c'est pas la pire des nouvelles.
Juste pour se quitter, cher Eric Orsenna, allez, une image qui vous plaît. Est-ce que ce sont donc ces merveilleux nuages? Et oui, ces merveilleux nuages, avec le soleil qui fait son boulot. Voilà, donc...
c'est le grand cycle de l'eau, hein.
Et donc là, on est au début du grand cycle.
Ouais. On est dans le grand cycle, on n'est qu'un élément du grand cycle. Vous savez, quand on vient du planétarium, ici, là-bas, à Plumeur, vous n'êtes pas grand-chose, hein. Ouais. Vous êtes juste un petit point et vous êtes emporté. Et moi, dans le conte que j'écris, je vois là, comment ils sont sur l'eau, et là, ils sont... Et puis, au moment où ils arrivent en mer, comme par hasard, ils s'évaporent. Ils s'évaporent. Ça ne veut pas dire qu'ils disparaissent, ça veut dire qu'ils vont revenir.
Alors, je sais qu'il y a 10 projets, mais simplement, qu'est-ce que l'on peut vous souhaiter, cher Eric, avant de se quitter?
Que ça continue encore un peu, pas forcément trop longtemps, et que l'amitié continue à m'apporter ses trésors.
Bon, on fait pratiquement la bise, hein, et puis...
Voilà. C'est la bise, bien sûr que oui.
Puis à très bientôt, Eric Orsenna.
Et la bise, c'est pas du vent.
Salut Eric.
Salut Denis, et à bientôt sur l'eau.
Sur l'eau ou bien sur terre, on ne sait pas encore. Eric Orsenna avec Patrick Graviou, je vous rappelle le titre de cet ouvrage. Il était une fois la Terre, la petite histoire et les mystères de notre planète. La semaine prochaine, ça va être autre chose, après la mer. Et un peu de montagne, oui, on va se retrouver en Chartreuse, à la fois sur la Savoie, ça va être plutôt sur Saint-Pierre-d'Entremont, enfin l'Isère n'est pas loin, avec Thierry Martenon. On sera au fil du bois. Pourquoi? Parce que l'homme est sculpteur sur bois, il nous fera découvrir son univers. Et on fera un petit tour, un petit crochet aussi par les ours des cavernes de Chartreuse. Merci à Jérôme Ragano, à Camille Blanès, à Andrea Lechêne qui a colorisé, réalisé cette émission, à Thierry Dupin qui a choisi les disques. On peut se retrouver sur Instagram, sur LinkedIn, sur Blue Sky, l'application Radio France, aussi franceinter.fr. Abonnez-vous au podcast de CO2 Mon Amour et à tout ce que vous souhaitez. Et je vous souhaite d'être bien ce week-end et plus tard aussi en pleine nature.